Et bonjour, vous avez reconnu l'indicatif, c'est l'indicatif du RFM+, du Festival de Radio France et de Montpellier, Occitanie. Festival qui a lieu du 9 au 27 juillet et aujourd'hui c'est notre deuxième émission consacrée eh bien, à des interviews. Alors aujourd'hui nous allons partir sur une interview que j'ai réalisée il n'y a pas très longtemps et qui a lieu à propos du concert du vendredi 13, et oui, on est vendredi 13, hein, il faut peut-être rester à la maison, mais enfin non, il faut aller surtout au concert ce soir. Et j'ai eu la chance de rencontrer un pianiste français qu'on avait déjà vu ici à Montpellier lors du Festival 2015, qui a déjà enregistré avec Mademoiselle Soum, des sonates de Grieg pour violon et piano. Il s'agit de David Gadouch. Alors David Gadouch, donc vendredi 13, le concert à 20h à l'Opéra Berlioz. Et il s'appelle Made in France, donc c'est l'idée un peu du festival Douce France. Alors nous écouterons dans ce concert du Satie Debussy dans les Gynopédies, Lucensens, et c'est là où jouera M. Gadouch le concerto pour piano numéro 2, puis ensuite orchestre, Ernest Chausson soir de fête, Emmanuel Chabrier, Loi Joyeuse Marche et La Bourrée Fantasque, et en deuxième partie donc, le concerto pour deux pianos de Poulenc et puis la valse. Donc c'est l'orchestre de Montpellier qui sera dirigé par Marzana Diakoun. Alors j'ai eu la chance donc de rencontrer David Gadouch et nous allons donc l'écouter. L'interview sera coupée en petits morceaux et je reprendrai tout à l'heure le micro en vous disant quels sont les divers morceaux que vous avez écoutés qui seront tous joués par Monsieur David Gadouch. Donc écoutez David Gadouch. David Gadouch, alors si je me rappelle bien, vous êtes né du côté de Nice et vous avez commencé, puisqu'on ne vous connaît pas encore beaucoup, on va un peu en discuter, donc vous avez commencé à travailler avec des professeurs du côté de Nice avant de rentrer à le Conservatoire de Paris et vous avez travaillé avec, j'ai oublié son nom.
À Paris avec Jacques Rouvier.
Voilà, alors Jacques Rouvier il a une trajectoire un peu particulière puisqu'il avait démarré très fort et puis ensuite j'ai l'impression qu'il s'est consacré. J'avais dit cas l'enseignement et qui sa carrière soliste un peu passée derrière, non?
Alors je ne sais pas exactement les raisons pour lesquelles il a effectivement peut-être ralenti sa carrière de pianiste par rapport à ses débuts très très prometteurs qu'il avait. Je sais que c'était quelqu'un de très dévoué à ses élèves et qui a formé une grande partie de la génération, de la nouvelle génération de pianistes français. Et c'est quelqu'un à qui on est tous très reconnaissants, puisque moi, pas seulement moi, mais si il y a beaucoup de très beaux noms maintenant qui jouent beaucoup, qui sont aussi issus de sa classe. Donc je pense que c'est quelqu'un qui, si je puis me permettre, je ne connais pas ses raisons encore une fois, mais qui avait peut-être la scène pour laquelle il était un peu nerveux sur scène, peut-être, comme nous d'accord. tous d'ailleurs, mais peut-être un peu plus et qu'il avait du mal à supporter.
D'accord. Alors justement, pour faire la parenthèse, le trac, vous, ça s'exprime comment chez vous?
Ça s'exprime de.
Si vous voulez en parler, hein, je
Oui,
comprends que.
bien évidemment, il n'y a aucun problème. Le trac, c'est quelque chose de très. C'est indéfinissable parce qu'en fait, ça change de visage tout le temps. On peut être très relax et tout d'un coup, la minute avant monter sur scène ou la minute avant, la seconde avant attaquer la première note, on a une peur invraisemblable. Ça peut être.
Ou ne pas l'avoir,
Ou ne
ou
pas
n'en avoir
l'avoir. En
aucun,
fait,
ouais,
il n'y
c'est
a
ça.
aucune règle. C'est comme. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de pianistes maintenant. J'ai entendu souvent des gens de la génération, je parle de trois générations, de deux générations, des grands pianistes du siècle dernier qui choisissaient leurs concerts avec l'horoscope ou des choses comme
Ah,
ça.
ça, j'avais jamais
Voilà,
entendu
oui,
celle-là. Ah oui.
il y en a. Parce qu'en fait, il y a quelque chose de tellement, je dirais, on ne peut pas mesurer ce qui va nous arriver. Le jour du concert, on peut se sentir très très bien, la minute d'avant, très très mal. Il n'y a pas de règle. Du coup, le trac pour moi, c'est quelque chose que je ne peux pas contrôler. J'apprends juste à vivre avec et puis on accepte.
C'est Ciccolini qui me disait que pour lui, le moment de trac le plus intense, c'était quand il sortait, qu'il avançait vers son piano. Le grand vide, là, les 10-15 mètres, hein, il disait, celui-là, je le trouve impossible. Et le seul truc, c'est de se mettre à jouer. Effectivement, il était comme ça. Il arrivait, il s'asseyait, il jouait.
Il y a celui-ci, il y a celui des jours d'avant où on sait que sa famille va venir ou des gens
Ouais,
importants.
d'accord.
Il y a énormément de tracks très très différents, mais tous ces tracks, c'est juste de l'anticipation en fait. On veut juste faire bien, c'est ça qui se passe. On veut juste faire très très bien. Et finalement, c'est très beau en soi d'avoir le track. Ça veut juste dire qu'on prend notre métier vraiment très au sérieux et qu'on veut que les gens soient heureux en nous écoutant.
Moi, quand je discute du trac, j'aime bien, enfin, j'aime bien moi, en extérieur, en parler. Il y en a qui vous disent, j'ai pas le trac, mais je ne crois pas.
Alors moi j'ai du mal à les croire aussi, mais aussi
D'accord.
ça fait partie de c'est une personnalité. Je pense que il y a des gens qui ont effectivement pas le trac parce qu'ils arrivent à dire que être sur scène c'est pas différent que d'être dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire le fait d'être sur scène ça n'a pas une fonction supérieure. Et ça je peux le comprendre. C'est-à-dire que ils ont pas le trac, mais ils ne disent pas je ne joue jamais pas bien. C'est pas ce qu'ils disent. Ils disent juste je n'ai pas peur parce que finalement c'est un moment comme un autre. Et ça je peux arriver à le comprendre. Je pense que ça peut arriver de dédramatiser complètement la scène et juste de monter et puis de se dire de monter sur scène et de se dire bon bah ça se fera comme ça se fera.
D'accord. Alors, quand on regarde les pianistes avec lesquels vous avez travaillé ou suivi des masterclass ou des cours, on s'aperçoit que c'est immense. Je veux dire, Peraya, Barenboim, Pollini, difficile de faire au plus différent, hein. Alors, qu'est-ce que vous cherchiez à passer de l'un à l'autre comme ça?
Je pense que je suis, et je suis toujours, avide de conseils et avide d'inspiration.
Une autre forme de trac, peut-être.
C'est une autre forme de trac, c'est plus une. Je pense que je suis très curieux de ce qui se fait. Et on a la chance d'avoir les enregistrements maintenant de YouTube, d'ailleurs, enfin, des portails comme ça qui ouvrent des mondes entiers d'interprétation. Et moi, à ce moment-là, quand j'étais plus jeune, ma forme de curiosité, c'était d'aller voir des grands interprètes et de leur demander qu'est-ce que vous pensez de ce que je fais déjà et puis qu'est-ce que vous faites et comment est-ce que moi je pourrais comprendre votre démarche. Et c'est pour ça que j'ai multiplié les masterclass. C'est vrai que maintenant je ne veux plus le faire. Par contre, j'écoute énormément de musique et énormément de versions différentes. Mais à un moment, j'étais très avide, j'étais très très. Je dis avide parce que c'était une soif de savoir. Parce que moi, mes parents ne sont pas musiciens. Je suis arrivé un peu. Parce que ma mère croyait en moi très jeune, du coup j'ai beaucoup travaillé très très jeune, j'ai eu une sorte de carrière de prodige très
Absolument,
jeune,
13-14 ans, vous
voilà.
jouiez déjà partout.
Mais sans, je dirais, l'aide de personnes autour de moi qui pourraient me
Oui,
dire
parce que
ah
vous êtes
oui,
rentré au conservatoire à 14 ans, si j'ai bien vu, et
c'est
déjà
ça.
vous aviez une carrière derrière vous.
C'est ça, bon. Et c'est pour ça que j'ai voulu travailler le plus possible avec des gens qui pouvaient me dire, bah ça va pas, ça va, ça tu pourrais faire autrement.
Alors j'ai vu quand même que vous aviez suivi des cours avec Perlman, alors là il faut m'expliquer là.
Oui, avec Itzhak Perlman, donc le
Ouais.
violoniste qui est
Oui, voilà,
violoniste.
c'est ça.
Et moi, j'ai suivi des cours avec lui parce qu'en fait, il a un programme d'été en fait, il prend 2 mois off, j'imagine, pendant son été aux États-Unis et il fait pour. C'est un grand prof aux États-Unis. Il n'est pas seulement violoniste, il est prof à la Juilliard et c'est un grand prof réputé. Et il a formé cette académie. Sa femme et lui ont formé cette académie qui, en fait, aide les jeunes musiciens partout dans le monde. Et moi, j'avais envoyé ma cassette et il m'avait pris. Donc, le petit Français qui arrive là-bas aux États-Unis, C'était hyper excitant en fait. Moi j'ai adoré. J'ai passé 2 étés là-bas ou 3 étés, je ne me souviens plus. Et il donnait des masterclass. Voilà. Moi j'ai étudié avec un violoniste, mais vous savez, il n'y a pas vraiment beaucoup de différence, à part le fait que peut-être effectivement il joue pas de piano, mais la musique c'est un langage. À partir du moment où on parle musique. C'est pas parce qu'on fait du violon, on fait de la trompette qu'on peut pas parler, on parle pas la même chose.
Alors effectivement, notre petit, comment dirais-je, notre grand monsieur qui s'est penché sur vous, c'est quand même Barenboim. Vous avez fait beaucoup de choses avec Barenboim, mais il vous a invité à beaucoup d'endroits.
Barenboim m'a été une grande, grande inspiration, tout d'abord. Et puis après, c'est vrai qu'il a été un tremplin incroyable pour moi, parce qu'avec ses masterclass qu'il a fait donc sur DVD, dans sa nouvelle version des sonates de Beethoven, ça m'a fait un nom, parce que, mine de rien, on était choisi par Barenboim pour faire. Il y avait des auditions pour faire. C'était une sorte de concours, en fait, de participer à ces sonates. Et puis c'est quelqu'un qui a changé ma vie, parce que c'est vrai que sa manière d'enseigner, sa manière de jouer, elle continue à m'influencer encore maintenant. C'est quelqu'un qui est très intègre, enfin, je pense qu'il est vraiment unique. De toute façon, pour être là-haut dans le panthéon des grands, grands musiciens, il faut avoir une personnalité hors du commun. Je veux dire, c'est des gens comme lui, ça se compte sur les doigts d'une main. Et j'ai eu la chance de pouvoir étudier avec lui. Il a été effectivement quelqu'un qui m'a beaucoup, beaucoup aidé, qui même maintenant que je ne le vois plus en fait, mais je continue à penser à lui tout le temps, à écouter ce qu'il fait, à le regarder en vidéo.
Et le côté direction d'orchestre, sachant ce qu'il fait lui, ça vous intéresserait a priori?
Moi, la direction d'orchestre, j'avoue que c'est quelque chose qui ne m'attire pas encore, contrairement à beaucoup de mes collègues. Je suis très, très bien avec les difficultés que le piano met sur mon chemin.
Oui, parce que beaucoup de musiciens disent que les chefs d'orchestre, ils ne servent à rien, ils ne jouent pas. Hein.
Alors, ça, moi, j'ai jamais dit ça.
J'ai pas dit que vous l'avez dit.
Non, mais non, j'admire
Pour le
beaucoup le
moins, c'est
travail des
pas. Voilà.
chefs.
Thank you.
Alors, quand on regarde justement ce que vous avez enregistré, donc Shostakovich, de Metner, il me semble, Beethoven, on ne trouve pas beaucoup de Français quand même.
Oui, c'est dommage. Il y a ce disque avec Edgar Moreau, donc oui. En duo, où j'ai effectivement enregistré que du français, pour le coup. Mais c'est vrai qu'en solo, je n'ai pas encore fait. Et pourtant, j'en joue beaucoup. Et ça devient même une de mes spécialités, je dois dire. Enfin, quand je suis à l'étranger, c'est principalement que ce que je joue. Et puis, je m'y retrouve totalement dans... Enfin, je dirais, on ne peut pas généraliser et dire la musique française en général, mais quand même, il y a quelque chose du début du XXe siècle qu'on sent dans l'air, on sent dans la musique. On est dans cette époque en particulier, et moi, je m'y sens vraiment, enfin, je pense très bien. J'aimerais en faire plus.
Tomber dans Shostakovich, ce n'est pas facile, parce que vous avez enregistré les préludes. Les préludes, oui, c'est ça. C'est quand même un sacré morceau, les préludes. Hein. Des sacrés morceaux.
Oui, c'est des sacrés morceaux, mais c'était à l'époque, ça faisait sens en fait. On enregistre des disques parce que c'est ce qu'on joue en concert, et moi à ce moment-là, c'était mes premiers disques et je me faisais connaître avec Shostakovich, qui était d'ailleurs une œuvre pas très jouée et qui avait beaucoup de succès à ce moment-là parce que c'était des miniatures et les gens étaient très intrigués. Et voilà, et j'étudie en plus avec un professeur russe à ce moment-là.
Voilà, c'est tout ça. Est lié, je pensais qu'il y avait quelque chose là, oui.
Tout est lié. Mais maintenant, c'est vrai que je suis un artiste français, je joue beaucoup en France et je joue beaucoup à l'étranger. Quand on engage un artiste français à l'étranger, on a envie souvent qu'il joue quelque chose de là où il vient. Tout
simplement. Moi, j'ai beaucoup apprécié le quintet avec le quatuor Ardeo, qui est un magnifique quatuor. J'ai entendu plusieurs fois, c'est sacré musicien.
Oui, je les aime beaucoup, le quatuor Ardeo. C'est un grand groupe de musique de chambre. Oui.
Alors, on arrive au concert. Donc, concert, on vous voit. Alors, il y a deux pianistes. Vous êtes l'un des deux. Et vous allez nous jouer le concerto de Saint-Saëns, numéro 2, si j'ai bien retenu. Et le double de Poulenc. Alors, il y a un lien entre les deux. Qu'est-ce que on vous l'a dit, vous jouez ça et puis vous l'avez joué. Non, pour vous.
Moi, on m'a demandé ce programme. Mais en fait, le lien, c'est tout simple. C'est ce que vous avez dit. C'est la musique française. C'est ce début du siècle foisonnant d'inspirations très, très différentes, de courants musicaux qui ont a priori pas grand chose à voir entre eux, et pourtant qui fait que on était face à des compositeurs de génie à tous les coins de rue, enfin Satie, à Chausson, Ravel, Debussy, Poulenc, bon, même si c'est pas exactement la même époque, mais enfin c'est extraordinaire, moi je trouve ça magique. Et encore, c'est que c'est vraiment la pointe de l'iceberg par rapport à ce qui se faisait à Paris dans tous les arts. Donc moi, je trouve ça fascinant de s'imaginer que cette ville était habitée par tellement de talents, tellement de têtes, tellement de cœurs, tellement d'inspirations en même moment, et que des œuvres aussi exceptionnelles que le concerto numéro 2 de Saint-Saëns, par exemple, étaient créées en même temps que, je ne sais pas, n'importe quel chef-d'œuvre du début du siècle.
Alors, Saint-Saëns, j'ai l'impression, pour regarder pas mal la discographie, qu'il revient à la mode.
À Saint-Saëns, moi je suis pianiste, donc je n'ai pas l'impression qu'il soit jamais sorti de la mode.
Mais si, c'était kitsch à un moment, on ne le jouait plus.
Alors c'était kitsch peut-être, je sais pas.
Je parle pas de la qualité de virtuose qu'il faut pour jouer ses œuvres. On connaît Saint-Saëns, c'est ce qu'il est capable de jouer. Mais je veux dire, c'était un peu passé de mode. Rachmaninoff était un peu trop passé derrière, quoi. Ou devant, je sais pas ce qu'il faut dire.
Peut-être. Je peux pas vraiment dire. Il y a peut-être un retour vers Saint-Saëns parce qu'il y a un grand retour vers la musique française, je pense, en général. De toute façon,
parce que c'est plus large que ça.
Il y a un grand engouement, beaucoup de passion pour cette musique-là, et notamment pour aussi des compositeurs qu'on qualifie d'oubliés, que le Palazzetto, par exemple, Brusane à Venise, redécouvre en ce moment. Et puis, on découvre de vrais chefs-d'œuvre. C'était vraiment une époque exceptionnelle.
D'accord. Et Saint-Saëns, vous avez touché autre chose que les concertos, les œuvres pour piano seul?
Non, je les connais, mais je n'ai pas joué de Saint-Saëns à part ces concertos.
D'accord. Alors, qu'est-ce que vous pensez donc du numéro 2?
Concerto numéro 2 de Saint-Saëns, c'est difficile de le résumer en quelques mots, mais bon, c'est un concerto extrême, puisqu'on commence dans les limbes presque d'une cathédrale, et puis on finit dans quelque chose d'absolument festif et presque diabolique, je dirais. Donc, et en plein milieu, on a ce mouvement qui est d'une légèreté délicieuse. Ça fait un mix un peu... Vous avez qualifié ça tout à l'heure, ça de kitsch, parce que peut-être on disait ça, mais c'est pas du tout kitsch, c'est passionnant, c'est vraiment passionnant.
Et les doigts, il faut qu'ils soient sacrément bien placés là.
Il faut que les doigts soient comme dans toutes les œuvres, mais effectivement dans celle-ci il y a beaucoup de notes, oui.
Ouais. Alors le Poulenc à côté, virtuosement parlant, il est Il est différent, on est d'accord, mais bon, il se situe où? Dans les mêmes niveaux?
Poulenc, c'est complètement différent de Saint-Saëns. Déjà, c'était,
non, je parle d'un point de vue technique pianistique.
De point de vue technique pianistique, je pense que le concerto de Poulenc, c'est complètement différent. Déjà, on est à deux pianos sur le Poulenc, donc ouais, c'est incomparable. Et puis aussi, dans le Poulenc, il y a beaucoup, beaucoup d'orchestres, donc il y a beaucoup de mise en place avec l'orchestre, il y a une vraie coopération. On se sent beaucoup moins en soliste dans le Poulenc que dans Saint-Saëns.
C'est plus léger. L'orchestre est un peu plus léger, plus transparent. Il vous soutient, vous mélangez, quoi, si je peux dire ici.
Voilà.
D'accord. Et vous avez prévu de les enregistrer tous les deux ou pas plus que ça, Aride?
J'aimerais bien enregistrer du Saint-Saëns, pourquoi pas, mais c'est pas dans mes priorités, non.
Alors c'est quoi vos priorités?
Mes priorités, si on peut en parler. C'est moi, je me spécialise plus dans le domaine du récital et dans le domaine en particulier dans mes derniers disques, c'est j'essaie de chercher un thème commun entre des œuvres. J'aime bien que les disques ne rabâchent pas les mêmes œuvres toujours, qu'on n'ait pas un seul compositeur par disque. Donc là, je m'attarde plus à trouver un thème qui soit captivant pour le public et on se dise, je ne vais pas écouter telle œuvre ou tel compositeur, mais je vais faire ce voyage avec l'artiste. Je vais écouter, je ne sais pas, un thème en particulier dans ce disque. Et c'est ça qui m'intéresse, associer des œuvres entre elles pour qu'elles fassent au final voilà, une sensation, une longue note. Qu'on puisse se rappeler longtemps après de ce disque.
Dans vos enregistrements, alors je ne sais pas dans vos concerts, j'avoue que honnêtement, la voix, vous accompagnez souvent la voix?
Je n'accompagne pas la voix, non. Ça m'intéresse beaucoup, mais je ne peux pas tout faire.
D'accord. C'est uniquement ça.
Oui, c'est le manque de temps. Oui.
Oui, parce que, d'accord. Bon, ben, c'est terminé, on n'en parle plus. Et finalement, qu'est-ce que vous, d'un point de vue, si on vous demande de choisir, vous préférez le concert soliste, vous préférez le concert en duo, vous préférez à l'orchestre? Si vous n'allez pas me répondre, ça dépend des jours, on est d'accord. Mais bon.
Si je dois choisir. Je ne peux pas choisir, je suis vraiment désolé. C'est comme dire quel est votre compositeur préféré, c'est très compliqué.
Ouais.
Ça dépend. En ce moment, là, j'aime beaucoup jouer en concerto.
Ouais.
Parce que je rencontre des gens, parce que je rencontre des chefs, parce que c'est très gratifiant de jouer en concerto quand ça se passe bien. Et qu'il y a des œuvres absolument exceptionnelles. Et dans une semaine, je joue en récital à la rock, je dirais exactement le contraire. Donc voilà.
D'accord. Donc vos prochains concerts après Montpellier?
Après Montpellier, je joue avec Edgar Moreau dans le festival de Mario Drou à Judo Pérec, je crois que ça s'appelle. Et après, je suis à la rock le 22. Après, je suis à Herbalunga en Corse le 31, à Saint-Ursanne le 3, le 5 au Haut d'Anjou.
Oui, ça ne s'arrête pas. Quoi. Pas de vacances pour Cadouche?
Si, j'ai pris des vacances. Je me suis aménagé depuis. C'est la première fois dans ma vie où j'ai pris 2 semaines en accord avec mon agent. Voilà.
D'accord. Donc, et pas de piano, ça veut dire là? Non.
Pas de piano, oui. Il n'y aura pas de piano.
Même pour vous?
Même pour moi.
Ah ouais? Mais ça, un pianiste, il peut s'arrêter quelques temps sans qu'on remarque trop.
Je ne sais pas, je vous le dirai, mais je sais que ma tête en a besoin, oui.
Ah voilà, c'est ça. Mais je ne sais plus quel était le compositeur ou la chanteuse qui disait ça. Un pianiste peut s'arrêter un jour, 3 jours, une semaine, mais moi, en tant que chanteuse, je crois que c'était Malibran qui disait ça. Mais moi, si je m'arrête un jour, déjà, on l'entend, et au bout de 3 jours, les auditeurs l'entendent.
Mais je pense, moi aussi, ça s'entend, bien évidemment, mais après, il y a beaucoup d'autres choses enfin, dans la vie. Même dans une vie d'artiste qui joue beaucoup, on doit prendre... Enfin, beaucoup de choses ont beaucoup de valeur. Il y a effectivement la carrière, mais il y a aussi la vie. Il y a sa famille. Il y a beaucoup de choses différentes qui rentrent en jeu.
D'accord. Bon, mais alors, bonnes vacances dans quelques temps. Merci à vous. Thank you. Voilà, vous venez donc d'écouter David Cadouche au micro de Radio FM+. Alors, vous avez écouté également quelques extraits de CD enregistrés par David Cadouche. Il n'y a pas tous les extraits, évidemment, tous les disques. Vous avez d'abord écouté « En plein air » de Béla Bartok. C'est le premier morceau avec tambour et fifre, enregistrement de 2016 chez Mirare. Ensuite, vous avez entendu la fin des tableaux d'exposition de Moussorski, La Grande Porte de Kiev, c'est le dernier morceau. Et ensuite, vous avez entendu le mouvement central, l'intermezzo. Donc, ce n'est pas le mouvement central, c'est le quatrième sur les cinq. L'intermezzo avec indication de tempo lento. Donc, David Cadouche était accompagné par le quatuor Ardeo. Voilà. Alors, avant de terminer, eh bien, je vais annoncer quelques concerts à ne pas louper pendant ce festival. Donc, vous avez à nouveau compris, vendredi 13 avec David Cadouche, l'orchestre de Montpellier, dirigé par Marzana Diakoun. Ensuite, vous avez les fameuses sonates de Scarlatti, on en a déjà parlé la dernière fois. Donc ça se passera samedi et dimanche. Samedi, deux concerts au château d'Atsas à 17h30 et à 20h avec Mathieu Dupuis et Paolo Zanzu. Et le dimanche 15, vous en avez quatre de concerts. Lars Ulrich Mortensen, donc à la salle Pasteur, tout ça se passera à la salle Pasteur. Vous avez également Guya Nuti à 16h15, 19h Frédéric Haas et à 21h Arnaud De Pasquale. Et vous avez un autre concert à Cournon-Terral le samedi 14, je l'ai sauté. Voilà. Et dimanche 15, un autre concert Douce France, celui-là il s'appelle vraiment Douce France, avec Isabelle Georges, la chanteuse, Frédéric Sendelmer-Chang, Roland Romanelli à l'accordéon et Jeff Cohen au piano. C'est l'orchestre de Pau-Béarn et c'est dirigé par Faisal Karoui. Et ça se place donc à l'Opéra au Domendo, à 22h. Voilà. Et nous nous retrouverons lundi pour parler de tas d'autres choses. Vous étiez donc sur Radio FM+, c'était l'émission consacrée au Festival de Radio France Montpellier Occitanie. Voilà, c'était donc, ça se passe du 9 au 21 juillet, un peu partout dans toute la région. Je remercie la technique, bye bye.